RFI 9h à Paris, 15h à Bangkok, 8h en temps universel. Et le journal avec Juliette Pietraszewski.
Merci Julien. À la une de ce journal, plus de 1000 morts en Birmanie après le séisme qui a frappé l'Asie du Sud-Est hier. La Thaïlande, elle aussi, a été touchée. Le bilan dans le pays fait état de 8 victimes. Reportage en début de journal. Au Sénégal, le projet Sénégal Power Compact va finalement redémarrer grâce à la dérogation exceptionnelle, une dérogation exceptionnelle américaine. Explication dans un instant. En Turquie, la contestation se poursuit. Une semaine après l'incarcération du maire d'Istanbul, principal rival de Erdogan, le président, avec un appel à la mobilisation de l'opposition ce samedi alors que la répression se fait sentir. Et puis le soleil a rendez-vous avec la lune pour une éclipse partielle aujourd'hui. Si vous êtes en Afrique du Nord-Ouest, en Europe de l'Ouest ou dans l'Est du Canada, vous aurez peut-être la chance d'y assister. 8 morts en Thaïlande, plus de 1000 en Birmanie. Voilà le dernier bilan du séisme qui a pris de court ces pays d'Asie du Sud-Est hier. Un séisme de magnitude 7,7. Après cet événement, le gouverneur de Bangkok a décidé de laisser les parcs publics ouverts toute la nuit pour aider les gens coincés dans les embouteillages ou ayant du mal à rentrer chez eux. En cause notamment la fermeture du métro. Notre correspondant Valentin Sébron en a rencontré certains.
À bord de leur mobylette, deux bénévoles déambulent en pleine nuit dans le parc Chatuchak, au nord de Bangkok, pour distribuer de la nourriture. Ce sont des gens qui ne peuvent pas rentrer chez eux, disent-ils, ou qui habitent près du bâtiment qui s'est effondré. Parmi eux, Oil est venu avec sa femme et ses enfants en bas âge. Il est encore traumatisé.
On se fait du souci pour notre sécurité. Ma femme a vu l'immeuble s'écrouler de ses propres yeux. Ça fait tellement peur. On nous a dit que des secousses pouvaient revenir. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais on préfère rester dans le parc, loin du danger.
Un peu plus loin, deux jeunes femmes ont installé un tapis sur l'herbe. Homme ne veut pas rentrer chez elle.
Dans mon appartement, il y a une fissure et l'immeuble dans lequel je vis n'est pas droit. Ils sont encore en train de vérifier si tout est sécurisé. Je panique en pensant aux secousses. Je sens que je ne peux pas retourner chez moi.
Juste derrière le parc, les recherches sont toujours en cours pour retrouver les ouvriers de la tour en chantier qui s'est effondrée. Selon la presse locale, 101 personnes étaient dans la soirée, toujours piégées sous les décombres. Valentin Sébron, Bangkok, RFI.
Et concernant la Birmanie, où il y aurait plus de 1000 morts, le chef de la junte a lancé un appel à l'aide internationale, ce qui est assez rare. Et parmi les réactions internationales, le président chinois Xi Jinping a envoyé un message faisant part de sa profonde tristesse au chef de la junte birmane. L'Inde a envoyé un avion humanitaire dans le pays, annonce du ministre des Affaires étrangères indien ce matin. Les États-Unis vont aider la Birmanie, avait également annoncé hier le président américain Donald Trump. En parallèle, toujours en Asie, le premier ministre japonais Ishiba et le nouveau secrétaire américain à la Défense ont appelé aujourd'hui à renforcer l'alliance entre Tokyo et Washington à l'occasion d'une cérémonie pour le 80e anniversaire de la bataille d'Iwo Jima, le lieu de combat acharné entre forces japonaises et américaines lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et dans l'actualité également, direction le Sénégal avec une bonne nouvelle. Après le gel brutal des projets d'aide financés par les États-Unis en février, le projet Sénégal Power Compact redémarre grâce à une dérogation exceptionnelle américaine, un soutien crucial à l'accès universel à l'électricité dans un contexte économique tendu pour le pays, Juliette Dubois.
Le département d'État américain a accordé le 18 mars une dérogation exceptionnelle pour la reprise du projet Sénégal Power Compact sur demande du ministère de l'économie sénégalais. Ce projet d'ampleur lancé en 2021 pour 5 ans vient en soutien à l'objectif d'accès universel à l'électricité dans le pays avec une enveloppe totale de 600 millions de dollars, soit plus de 550 millions d'euros. On y trouve le développement d'un réseau haute tension autour de Dakar ou encore l'amélioration de l'accès à l'électricité en zone rurale. Plus de 12 millions de Sénégalais dans tout le pays sont touchés par ce projet qui était entré dans sa dernière phase en juillet dernier. Il avait été mis à l'arrêt début février brutalement par l'administration Trump, comme le reste des programmes d'aide humanitaire. Ce gel de l'aide américaine pour 90 jours a causé la stupéfaction dans de nombreux pays, y compris au Sénégal. Les États-Unis y finançaient également des projets de soutien au processus de paix en Casamance, ainsi que liés au VIH. Cette dérogation est donc une bonne nouvelle au moment où le pays est dans une situation financière particulièrement alarmante, avec un déficit et une dette bien supérieurs à ce qui avait été annoncé par l'administration précédente. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
En Turquie, nouvel appel à la mobilisation de l'opposition ce samedi à Istanbul, une semaine après l'incarcération du maire de la ville, Ekrem İmamoğlu, principal opposant du président Erdogan. Depuis le début de ce mouvement de contestation, 1900 manifestants ont été placés en garde à vue, 260 emprisonnés depuis le début donc des protestations. Journaliste et avocat n'y échappent pas non plus. L'avocat du maire d'Istanbul a été arrêté hier, alors que la répression s'accentue. Les partisans du maire d'Istanbul craignent également un essoufflement dans les prochains jours. À Ankara, Anne Andlauer.
Ali Ege a l'intention de faire le voyage depuis Ankara pour assister au grand meeting du CHP à Istanbul. Cette semaine, dans la capitale, il a participé avec d'autres étudiants à des rassemblements, mais leur ampleur était moindre que celle des manifestations de la semaine dernière. Le jeune homme de 21 ans pense pourtant qu'il est indispensable de continuer à se faire entendre.
Les manifestations peuvent et doivent se poursuivre, car ce qu'il y a derrière, ce n'est pas un seul événement, c'est un ras-le-bol général lié à la perte des libertés et à la crise économique. L'arrestation d'İmamoğlu a fait déborder le vase.
Son ami Zuhal, 22 ans, a espéré, dans les premiers jours, que la pression de la rue obligerait le pouvoir à faire libérer Ekrem İmamoğlu. Il n'en est rien, mais pendant ce temps, les arrestations se multiplient parmi les jeunes manifestants. Zuhal est gagné par une forme de fatalisme.
Si on veut que les choses changent, il faut que le peuple continue de résister. Mais si je suis honnête avec moi-même, je me dis que quoi que fasse l'opposition, rien ne changera.
Pour le CHP, le rassemblement d'Istanbul doit être une démonstration de force. Mais le premier parti d'opposition turque sait aussi que, le temps passant, il risque d'être difficile de mobiliser ses soutiens alors qu'aucune élection n'est prévue à court terme. D'autant que la Turquie entame ce samedi une période de 9 jours fériés décrétée par le gouvernement pour allonger les fêtes de fin du Ramadan, peut-être dans l'espoir d'accélérer l'essoufflement du mouvement de protestation. Anne Andlauer, Ankara, RFI.
En France, l'assassin de Chaïnez Daoud, Mounir Bouta, a été condamné hier par la cour d'assises de Gironde à la réclusion criminelle à perpétuité. L'assassin a brûlé vive la victime il y a 4 ans, c'était à Mérignac. La personnalité complexe de l'accusé aura été au cœur des débats qui se sont déroulés toute la semaine. On y revient avec Noémie Lehouelever.
À l'énoncé du verdict, Mounir Bouta est resté impassible. Les jurés ont suivi à la lettre les réquisitions du parquet, la réclusion criminelle à perpétuité, avec période de sûreté de 22 ans. Une peine lourde que dénonce son avocate, maître Anaïs Divot.
Ça signifie qu'il n'a quasiment aucun espoir de sortir un jour de détention. Et on peut se poser la question du sens de cette peine pour une personne qui souffre de troubles psychiatriques en réalité.
L'accusé souffre d'un trouble paranoïaque, diagnostiqué par des experts psychiatres et psychologues. L'altération de son discernement au moment du passage à l'acte a été reconnue sans pour autant entraîner de diminution de peine, ce dont se félicite l'avocat de la famille Daoud, maître Julien Plouton.
Je dirais que c'est une peine qui, à mon sens, tient compte de la gravité des faits et qui aussi, manifestement, tient compte de la personnalité de l'accusé. Premièrement, parce que l'altération du discernement a quand même été retenue. Et puis, deuxièmement aussi, parce que la possibilité d'une diminution de peine a été écartée. Et je pense que c'est précisément par rapport à la personnalité de l'accusé et à sa dangerosité.
Une autre procédure pour faute lourde a été lancée contre l'État français en matière civile, car cette affaire a aussi mis à jour les défaillances des services de justice et de police. Chaïnez Daoud avait déposé 3 plaintes avant d'être brûlé vif par son ex-compagnon le 4 mai 2021. Noémie Leweller, Bordeaux, RFI.
Et ce matin, si vous êtes en Afrique du Nord-Ouest, en Europe de l'Ouest ou dans l'Est du Canada, vous aurez la chance peut-être d'assister à un joli spectacle, à savoir une éclipse, la lune qui passe devant le soleil, même si cette fois, il n'est que partiel, Simon Rosé.
C'est une coïncidence qui procure à chaque fois un joli spectacle. La Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, mais elle est aussi 400 fois plus proche de nous. Résultat, dans le ciel, les deux nous apparaissent à la même taille. Ce samedi matin, notre satellite va donc passer devant notre étoile. Les deux ne seront pas parfaitement alignés, l'éclipse ne sera donc que partielle. Mais cela vaudra tout de même le coup de lever les yeux au ciel. Attention cependant, même partiellement occulté, le Soleil brille fort. Il est donc obligatoire de porter des lunettes dédiées sous peine de s'abîmer gravement les yeux. Sénégal, Mauritanie, Maroc, Algérie seront au cours de la matinée progressivement survolés par l'ombre de la Lune, avant que l'Europe de l'Ouest ne profite du spectacle. Mais aussi bien en Afrique qu'en Europe, le soleil sera cependant bien moins occulté qu'au Canada. De l'autre côté de l'Atlantique, 85% de notre étoile sera masquée. Les Québécois auront donc presque une éclipse totale.
Explication de Simon Rosé. Et cette éclipse sera donc visible si vous êtes en Afrique du Nord-Ouest, en Europe de l'Ouest et dans l'Est du Canada. Le début, c'est 8h50, temps universel. Fin prévue à 12h43, temps universel. RFI, il est 9h10 à Paris.